the Palace. C'était un mois d'anniversaire pour moi, un peu. Là, plusieurs anniversaires qui m'arrivent au mois de juillet. Donc, demain, c'est notre anniversaire de mariage. De je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas de calculatrice, là. 76. Je pense que j'avais 47 ans. Ça se peut-tu? 47 ans, que, mes amis. Ça passe. Puis le 1er juillet, j'ai célébré 50 ans au Québec. J'ai déménagé au Québec. Il y a des gens qui commencent à se faire que tu as encore un accent, là. Mais écoute, je prie avec. Marc fait combien d'années, puis encore son accent. Oh, c'est aussi lui, là. Donc, les accents ont 33 ans. Donc, on reste pris avec nos accents. Là. Mes enfants sont grandis bilingues, pas d'accent ni en anglais ni en français, mais j'aurai même toujours mon petit accent, je pense. Puis ça fait 33 ans, au mois de juillet, que j'étais dans la région de Lac-Saint-Jean. Ça, c'est votre faute en passant. Parce que Claude Derry a déménagé ici pour être votre pasteur dans ces années-là. Puis, oh, on va aller voir Claude. Moi, j'étais à Sherbrooke avec lui. Puis on est resté pris ici. Donc, ça fait 33 ans au Lac-Saint-Jean, 50 ans au Québec et 47 ans de mariage, tout au mois de juillet. Hein? Spécial. On va regarder un texte ce matin dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14. Et puis... Jean chapitre 14, mais il y a beaucoup de promesses. C'est Jean chapitre 14 où Jésus console ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Vous serez toujours avec moi. Ça, c'est une des grandes promesses de Jean chapitre 14. Et puis là, il y a ce dialogue ici avec Thomas. Seigneur, on suppose que tu vas, on ne connaît pas le chemin. Puis Jésus lui répond, ce passage, bien connu, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Puis là, il y a cet entretien aussi par la suite avec Philippe, mais montre-nous le Père. Et puis Jésus dit, si aussi longtemps que je suis avec vous, et vous ne connaissez pas le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et le verset qu'on va regarder ce matin en particulier, c'est le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins des œuvres. En moi, à cause des œuvres, surtout verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. J'ai eu, à travers des années, un peu de difficulté avec ce passage-là. Et j'imagine que les disciples qui étaient là... Comment c'est qu'on va faire des œuvres plus grandes que Jésus? Ça se peut-tu qu'on va faire des œuvres plus grandes que Jésus? Ça se peut-tu qu'il arrive quelque chose ici aujourd'hui plus grande que ce que dans le temps de Jésus? Ouh! Hein? Claude n'est pas sûr. Hein? Oh, ça peut, il peut. On va voir. Attends, on n'est pas fini. Mais on a cette réaction. Moi, quand je lis ça, je dis, je regarde ma vie, je regarde mon ministère. Il me semble que je n'ai pas fait des choses aussi grandes que ça, là. Mais c'est Jésus qui a dit, je m'en vais au Père et vous en ferez des œuvres que je fais et vous en ferez des plus grands. Wow! Donc, on va essayer de regarder cette verset ce matin pour voir si c'est possible à comprendre et voir si c'est possible qu'on peut encore faire des choses grandes aux yeux du Père. Donc, on voit dans cette section, Jésus dit premièrement, les œuvres que je fais, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Croyez en moi à cause de mes œuvres. Puis là, il donne cette grande déclaration, cette promesse. Donc, si on résume un petit peu, premièrement, là, les quelques-uns des grandes œuvres que Jésus a faites, puis on essaie de voir face à ça, mais nous autres, on fait quoi? Mais un des premiers ministères, la première chose, une des premières œuvres spectaculaires que Jésus a faites, c'était quoi déjà, Jean, là, le premier miracle que Jésus a fait? Tu me posais des questions, je vous lance la question. Il avait un bon goût, il avait un bon goût, là. Les noces de Cana, hein, les premiers miracles que Jésus a faits, c'était de transformer l'eau en vin. Avez-vous essayé ça? Ça prend quelques mois. À un moment donné, j'étais dehors, j'avais lu ce passage-là, puis je dis, on va essayer ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais j'avais des vieilles affaires. J'ai vendu mes animaux. J'ai des barrières de ferme. J'ai des affaires là, qui ne servent plus. J'ai dit, on va voir si je suis capable de transformer ça. Là. Pouf, pouf, pouf! Je les ai tout transformés en prunier, cerisier, pommier, poirier, hein? Avec l'aide de Marketplace. Donc, ce n'était pas vraiment la même chose. On ne peut pas comparer ça au miracle de Jésus. Mais c'était le premier miracle, et c'était pour manifester sa puissance, manifester sa gloire sur les éléments, l'eau en vin. Puis on voit que Jésus a, dans différentes reprises, a manifesté sa puissance sur les éléments. Au moment donné, il prêchait, commençait le matin, le soir, il y avait 5-6 000 personnes, puis il n'y a rien à manger. Est-ce qu'on retourne ces personnes à la maison sans manger? Pas bon, ça, là. Ce n'est pas une bonne idée. Les disciples, ils voulaient le faire. Mais non, Jésus dit, « Oh, on a trouvé 5 petits pains, on a quelques petits poissons. » Puis Jésus a offert, rendu grâce, puis ils ont commencé à distribuer le pain, des poissons. Et qu'est-ce qui restait après les 5-6 000 personnes? Il y avait deux fois qu'il a fait ça. Hein? 12 pains. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces 12 paniers-là? 12 disciples, chacun partait avec son panier à la maison. Peut-être, c'est ça. Mais ce qu'on voit ici que... Hein? Marketplace, oui. Mais on voit que dans ces... Jésus était sensible aux besoins humains. De manger, de boire. On a tous des besoins. Du temps, on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus de repos. Mais Jésus, dans différentes œuvres qu'il a faites à travers les évangiles, nous a montré que notre Père céleste sait nos besoins et il est capable de répondre à nos besoins. Cherchez premièrement le royaume, c'est un autre change hein, pour l'autre fois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données parce qu'il connaît nos besoins. Il voit nos besoins et il nous a montré qu'il est capable de répondre à nos besoins. Dans d'autres instances, Jésus a manifesté dans ses œuvres sa puissance sur la nature. Marcher sur l'eau, avez-vous déjà essayé ça? Peut-être en hiver. Des gens, des étrangers qui arrivent chez nous, des fois de d'autres pays, en Afrique, où on a des Brésiliens, puis la première fois, je les ai emmenés au Père et Banqueur marcher sur l'eau en hiver, sur la glace, ils trippaient. On marche sur l'eau! Nous autres, il y a 40 pieds d'eau, on marche sur l'eau! Mais c'est pas ça nécessairement l'œuvre plus grande qu'on parle ici de Jésus. Mais il marchait sur l'eau. Il calmait les tempêtes. Il a fait des pêches miraculeuses. Il est maître de la nature. Il a manifesté sa puissance sur la maladie. Dans Jean 5, chapitre 5, verset 5, j'ai pas de verset. J'ai ma femme qui fait mes versets et mes PowerPoints. Ça se trouve être à Calgary, donc... L'ordinateur Marketplace, c'est ma limite. Donc, je n'ai pas ces versets sur l'écran. Cet homme-là faisait 37 ans qu'il attendait sur le bord de piscine. Lorsque la piscine était agitée, le premier dans l'eau, il guérit. Il faisait 37 ans parce qu'il n'y avait personne pour l'aider à tomber dans l'eau. Donc, il reste là patiemment. Puis Jésus est arrivé. Il a vu ça. Et puis, il a dit, c'est « Prends ton lit et marche. » Puis le jeune homme, il avait au moins 30 quelques années, là, il est parti et il a marché. Malheureusement, c'était le jour du sabbat. Donc, ça a créé tout un débat, là. Mais juste sans aller dans les détails, j'ai toujours aimé Jean chapitre 5, parce que suite à ce miracle, les pharisiens arrivent, ta-ta-ta, fais pas ça. Et puis, Jésus nous laisse ici quatre confirmations de sa divinité. Je vais juste lire les titres. Parce que il débute son ministère. Et c'est le premier témoignage, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Le deuxième, le témoignage des œuvres de Jésus. Le troisième, le témoignage du Père, la voix que vous avez entendue au baptême, la voix que vous avez entendue ou que vous allez entendre à la transfiguration. Et le témoignage des Écritures, chercher dans les Écritures. Donc, Jésus est vraiment sur la sellette et défend sa divinité, son ministère, sa puissance avec ces quatre ou cinq témoignages ou témoins-là. Il a manifesté sa puissance sur la maladie. Jean chapitre 9, il y avait un homme qui est aveugle depuis la naissance. C'est ce que Jésus a fait. Il a mis un petit peu de sur les yeux, va de marcher par la foi, au piscine, lave-toi. Et il est revenu et il voyait. Vous avez vu le témoignage le plus court dans la Bible? C'est lui. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus l'a touché. Jean chapitre 11. Oh, Jean chapitre 11. Lazare qui est... Lazare, l'ami de Jésus, Marie, Marthe, leur frère. Venez, Jésus, notre frère est malade. Et Jésus a répondu, verset 4, après avoir entendu cela, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, à travers ses œuvres, Jésus est en train de manifester qui il est. C'est le Père en lui qui fait ses œuvres. Et lorsqu'il arrive, malheureusement, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Et puis il dit, même ici dans le texte, qu'il commence déjà à sentir. Va pas là. Mais dans le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une autre chanson, Jean. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, cette maladie de Lazare, c'était pour encore manifester la gloire de Dieu. Puis, au moment donné, ici, Jésus approchait, il pleurait, puis là, il a crié d'une voix forte, « Lazare! » Ceux qui dorment là. « Sors de là! » Pourquoi qu'il a dit Lazare? Et tout le monde sera sorti. Il fallait être spécifique cette journée-là. On n'est pas rendu à la résurrection encore. Lazare, sort de là. Et Lazare est sorti vivant. Ne t'ai-je pas dit, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus a manifesté sa puissance sur la maladie et même sur la mort. Jésus a manifesté sa puissance sur Satan. Dès le début de son ministère, 40 jours dans le jeûne, dans le désert. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça, 40 jours de jeûne? Je suis rendu à 15 une fois là. Mais 40 jours, tu es pas mal faible, tu es malade, c'est pas près de la limite. Et c'est là, dans le moment le plus faible, que qui arrive? Satan pour lui tenter. Il est tenté, ben, vous avez faim, transformez ces pierres-là. Regarde tout ça, venez à moi, je vous le donne. Et puis, hey, la gloire. Satan lui essaie de lui tenter dans le même domaine dans lequel nous pouvons facilement aussi être tentés dans nos besoins à nous, les besoins humains. Mais Jésus a toujours dit, « Arrière de moi, Satan. » Il est écrit, « Celui qui est en moi est plus... » J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc Jésus a manifesté à différentes reprises sur les démons, quoi que ce soit, sa puissance sur le mal. Et ce diable rôde encore. Et moi, ce qui est dans ce texte à Matthieu, là, où est-ce que Jésus, il lui quitte pour un moment opportun. Il n'est pas lâché, là. Je reviens. Et nous, souvent, cet lion rougissant est encore là. Puis dans les moments de faiblesse, dans les moments de difficulté ou dans les moments de découragement, c'est là qu'il arrive encore plus fort pour nous attirer, nous attenter, nous attisser. Et puis la culture, le mode, les médias, l'école, nos passions, quoi, ce sont des instruments que Dieu utilise pour nous détourner notre cœur de la vérité. Mais nous pouvons répondre de la même manière, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La promesse, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est juste un petit peu de résumé de quelques-unes des grandes œuvres de Jésus. Ah, juste avant que Jésus dise, les œuvres que tu as vues, tu les as faites, tu les as vues. Mais on vient de résumer quelques-uns. Vous allez en faire des plus grands. Comme je dis, ça, c'est toute une déclaration, ça, là. Vous allez en faire des plus grandes. Mais je regarde devant les œuvres de Jésus, puis je dis, oupala! Puissance sur le... Sur les éléments, le besoin humain, la nature, le malédé, le prince de ce monde. Et les disciples qui sont là, c'est un petit gang qui, quelques heures plus tard, vont disperser, Pierre va le nier. Pensez-vous qu'ils sont partis pour faire les œuvres plus grandes que Jésus? Pas tout de suite. Donc, quelques réflexions sur cette déclaration. On peut dire que, premièrement, le ministère de Jésus était limité, limité en espace. Jésus, l'homme, Dieu qui est devenu dans la forme d'un homme, a pris les limites d'un homme. Il fallait qu'il dort, il fallait qu'il mange. Et puis, il n'est jamais sorti d'une région plus grande que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec un petit bout vers le Québec, là, la Palestine, là. Notre région, ici, on a traversé plus de kilomètres ce matin que Jésus a fait dans bien du temps, là. Donc, Jésus était très limité par son corps humain dans l'espace. Et pendant ces 3 ans, il n'a pas été en dehors de cette région. Mais lorsque les disciples ont reçu l'énergie du Saint-Esprit, qui est aussi promis ici dans Jean chapitre 14, un peu plus loin, là, lorsque la Pentecôte est arrivée, puis on a vu, on a entendu... On a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé aux apôtres? Ben, ils ont repris vie. Ils ont passé du temps, quelques semaines avec Jésus. Mais là, lorsque l'Esprit Saint est arrivé dans leur vie, et cette promesse que Jésus, vous allez être mes disciples et vous allez témoigner de moi jusqu'aux extrémités du monde. Jésus était limité aux Palestines. Les disciples sont allés où? Jusque chez nous, jusqu'au Saint-Félicien. L'Évangile s'est rendu au fin fond du monde, là. Saint-Félicien, là, Saint-Jean. Tu vois, déjà, des apôtres sont partis. On dit que Thomas s'est rendu en Inde. Il y a des histoires qui montrent qu'il y a une église qui est partie par Thomas en Inde quelque part. Donc, les disciples qui étaient avec Jésus dans ces 3 ans limités, dans ce petit coin, se sont dit, Paul est parti avec 4 voyages missionnaires à travers tout le Moyen-Orient. Partie des églises, Éphèse, Corinthe, Galate, Philippiens, toutes ces places-là. Les disciples qui ont été proches de Jésus sont sortis de cette Palestine-là pour commencer à évangéliser le monde entier, ce que Jésus n'a jamais fait. On peut dire aussi que nous avons les mêmes ressources que Jésus. Et si... Ne savez-vous pas que vous avez vu le Père? Comment ça, vous n'avez pas vu le Père? Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais il essaie de leur faire comprendre. Celui, le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de mes œuvres. Moi en eux, eux en moi. Nous avons les mêmes ressources que Jésus parce qu'il ne faisait rien que le Père ne lui a pas donné. Puis où le Fils maintenant? Il est en nous, par l'Esprit Saint. On voit ici l'œuvre de la Trinité. Plus tard, en verset 16, il vous donnera le Consolateur, l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Donc, nous avons les mêmes ressources que des disciples. Nous avons les mêmes ressources que Jésus avait. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a le Consolateur en nous. À partir du Pentecôte, comme je dis, les flammes, la pluie, les langues, et les gens sont les disciples, énergisés par cet Esprit Saint, se sont mis à prêcher. On a eu des 2000, des 3000, des 4000, l'Église qui s'est remplie. Jésus n'a jamais vu ça, là. Il y a eu des 5000, 6000 des fois qui suivaient, mais ils partaient pour souper. Là, c'est l'Église qui débute en puissance par les œuvres de ces apôtres qui avaient été dispersés. Et je serai avec vous et je vous envoie. Et nous avons cette ressource aussi extraordinaire, c'est un autre passage à développer, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tous les miracles, c'était pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, il veut que nos réponses à la prière soient des manières à glorifier le Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est un autre passage que je trouve des fois dur à comprendre et saisir parce que j'ai prié bien des choses que je n'ai pas encore vues arriver. Même au nom du Seigneur, on prie ça, mais des fois on ne le voit pas. Mais peut-être Dieu a des plans ou des choses, mais ça va arriver. Mais nous avons exactement les mêmes ressources. Si on peut faire des œuvres aussi grandes, c'est parce qu'on a les mêmes ressources. Je dirais numéro 3 ici. Nous avons un message qui est plus clair que même dans le temps de Jésus. Oh là, comment se voit Jean, des anciens ici, poser des questions. Qu'est-ce qui va nous sortir là, là? C'est quoi le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous, le royaume de Dieu s'en vient. C'était pas plus que ça. Jésus, en sort, le royaume de Dieu s'en vient. Les disciples n'avaient pas encore compris le ministère et l'œuvre de Jésus. Même ici, dans Jean chapitre 13, 14 et 15, avant que Jésus meure, qu'il comprit le message, il posait des questions sur... je m'en vais à... Jésus essaie de leur parler du fait qu'il allait souffrir, mourir, être ressuscité, mais il ne croyait pas, là. Il n'avait pas vraiment... Pierre, hey, Jésus n'arrivera pas. En arrière de moi, Satan. Les disciples ne comprenaient pas qu'ils étaient avec le Père, même ici en Jean chapitre 14, 16, 17, jusqu'à la résurrection. Mais nous avons le message au complet. La plus grande œuvre de Jésus, c'était de mourir. Sur la croix, pour couvrir la peine de nos péchés, le sacrifice de Dieu pour nos péchés. C'est sûr qu'il a guéri du monde, mais ce qui est arrivé avec ces gens-là, ils sont tombés encore malades. Il a nourri 5000 personnes, mais 3 semaines plus tard, il était de retour parce qu'il avait encore faim. Hein? Les miracles étaient quand même limités. Et le message était limité. Maintenant, suite à la mort, la résurrection, Jésus est monté au ciel, il a envoyé son esprit. Le message est maintenant complet. Celui qui croit en moi à la vie éternelle ne viendra pas en condamnation, en jugement, mais il aurait la vie éternelle. Donc, la plus grande œuvre de Jésus, c'était son sacrifice pour nos péchés. Et maintenant, le message est complet. Le message est clair. Et les disciples sont partis avec le message de la mort et la résurrection et la vie éternelle. Le plus grand miracle, c'est d'offrir et de recevoir la vie éternelle. Celui qui écoute, qui entend, écoute et qui croit à la vie éternelle. Les disciples ne comprenaient pas trop c'était quoi la vie éternelle. Donc, je dirais que quatrièmement ici, on a, le message est plus clair, on est plus limité dans le temps, l'espace. On peut faire des plus grands miracles que Jésus. Mais c'est quoi le plus grand miracle? C'est d'offrir la vie éternelle, de recevoir la vie éternelle. Jésus était limité, comme j'ai dit. Lazare est ressuscité, mais qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Hein? Probablement, il meurt encore. Il meurt un peu de temps après. On ne sait pas l'histoire. Nourri 5000, plus tard, on a encore faim. Mais le plus grand miracle, c'est la vie éternelle. Et ce miracle-là, Jésus a donné à ses apôtres pour proclamer. Et on le proclame. Savez-vous que c'est possible de vivre aujourd'hui ici un miracle plus grand que la résurrection de Lazare? C'est possible. Si quelqu'un écoute, et entend, et croit, et reçoit la vie éternelle, mais il ne meurt pas, Lazare est mort. Hein? C'est plus grand. C'est pour l'éternité. La vie éternelle, ça veut dire que oui, hein, dans ce corps, on va un jour le quitter. Mais notre âme va vivre éternellement, dans l'éternité, avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que Dieu nous offre la possibilité d'opérer le plus grand miracle. Et on l'opère en partageant l'Évangile avec nos amis, nos voisins, dans notre église, avec nos jeunes, avec des moins jeunes. C'est le plus grand des miracles, c'est de recevoir la vie éternelle. Et nous avons l'occasion de témoigner de ce miracle-là, la plus grande œuvre que Jésus nous a laissée. Donc Jésus est encore à l'œuvre en nous et à travers nous, et il nous a donné ce mandat d'amener cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis 2000 ans, les gens sont fidèles à l'affaire. Et le but, ce n'est pas de dire, « Oh, mais moi, je peux faire des grandes choses. Et je vais essayer de faire quelque chose de plus grand que Jésus. » C'est de partir dans la chair. Mais le but, c'est d'être dans toute humilité, de réaliser que Dieu a des œuvres préparées pour moi, et ma responsabilité, c'est de les découvrir et de les faire avec toute simplicité de cœur. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des grandes choses de préparer pour nous. Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-la dans toutes tes voies et il dirigera vos santé. Dieu a les œuvres préparées. On cherche. C'est cette œuvre-là qui est la grande œuvre. Ce que Dieu a préparé pour moi. Pas ce que je fais dans la chair, par orgueil ou par amertume, mais ce que je fais dans simplicité de cœur en obéissant à celui qui m'appelle à le servir. Donc, à travers l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont fait des œuvres extraordinaires. Puis encore, l'apôtre Paul, comme je dis, est parti sur 4 voyages missionnaires, a implanté une dizaine d'églises. Et des multitudes de personnes qui ont marqué leur temps par leur œuvre à travers la foi que le Seigneur a mis dans leur cœur. William Carey, il y a plusieurs années, j'aime ça lire des autres. William Carey, c'est ce qu'on appelle un des pères des missions modernes, même si c'était dans les années 1700 quelque chose. Mais William Carey a ouvert l'Évangile à l'Inde, en traduction de la parole de Dieu dans plusieurs des dialectes. Il a donné sa vie, il a perdu ses femmes, perdu ses enfants, il a donné sa vie entière à mettre la parole de Dieu dans la disponibilité de le peuple en Inde. David Livingstone a fait la même chose en Afrique. Hudson Taylor a fait la même chose en Chine. Des gens qui sont rentrés dans ces pays durs, sans support, sans appui, que par l'Esprit de Dieu en eux et la foi que Dieu voulait faire des grandes œuvres. Et leur témoignage est encore là. L'organisation Hudson Taylor a commencé et est encore à Toronto, puis envoie encore des missionnaires. Amy Carmichael, plusieurs personnes. Charles Wesley, sa mère, Suzanne, qui a prié pour ses fils. Vous connaissez l'histoire avec les grandes familles. On est prêts à prier pour ses enfants. Mais Charles Wesley, écoute, un grand réveil en Angleterre, qui est revenu par la suite aux États-Unis. Billy Graham, peut-être plus de notre temps, là. Billy Graham, pendant 70 ans, a partagé l'Évangile partout dans le monde. C'est probablement l'homme encore qui dit qu'il a prêché au plus du monde à travers l'histoire. Des foules de millions de personnes, quand Billy Graham passait pour une semaine. C'est incroyable. L'œuvre que cette âme qui vient de mourir il y a peu de temps, là, qui est faite dans notre temps, incroyable. Les grandes œuvres par la foi et la simplicité et l'obéissance de la foi. Il a conseillé 12 présidents des États-Unis. Imaginez-vous, là, Billy Graham à côté. Il partage l'Évangile à ces hommes-là, à ces entourages-là. Donc, il y a des multitudes d'autres. Moi, à la télévision, je pense que Charles Stanley est décédé, mais fidèlement, Charles Stanley, à travers des années et des années, il prêche à son église, mais la caméra est là, puis on envoie ça partout le monde, puis c'est traduit dans plusieurs langues. Hein, je pense qu'il vient de décéder. Jésus n'a jamais pu faire ça, là. Moi, David Jeremiah. Connaissez-vous David Jeremiah, Brian? Ah, oh, David, ça, c'est mon pasteur, là, préféré. Moi, tous les matins. J'enregistre le soir, je l'écoute le matin. Mais juste dans son église, c'est un homme de mon âge, un peu plus vieux encore, mais fidèle, plusieurs années, 50 ans de ministère, et cette prêche qu'il fait dans son église et par radio, par télévision, est envoyé partout dans le monde. On n'est pas limité aujourd'hui, comme Jésus a été. John MacArthur, un autre. Et puis, aujourd'hui, Jésus continue à répondre aux besoins les plus urgents, comme il l'a fait aux noces, comme il l'a fait avec des 5 et des 6 000. Il y a des organisations qui ont débuté souvent par les chrétiens, par les gens qui ont à cœur de servir le Seigneur. Et lorsqu'il y a des crises humanitaires, les famines, les inondations, des feux, ils sont là. Vision mondiale, c'est une œuvre chrétienne, peut-être visionnée plus mondaine aujourd'hui. L'Armée du salut, ce sont des organisations qui ont débuté pour répondre aux besoins des plus pauvres autour d'eux. Je ne suis pas sûr pour la Croix-Rouge, je crois que c'est une fondation chrétienne aussi. Samaritan's Purse, nous, c'est peut-être l'organisation que nous, Wally et moi, aimons soutenir. Il y a tellement de besoins, on ne peut pas tout soutenir. Mais Samaritan's Purse, c'est le fils de Billy Graham, Franklin Graham, basé à Calgary. Aussitôt qu'il y a une crise quelque part, ils sont là. En Ukraine, la guerre, mais ils sont là avec les hôpitaux mobiles pour placer là, puis... Puis lorsqu'il y a une inondation, ils sont là. Lorsqu'il y a une faible, Dieu continue à faire des répondre aux besoins des plus urgents par les œuvres de ces personnes, de ces organisations. Je ne sais pas si vous avez connu David Dittnichen. Mais son fils Michael était responsable de Samaritan's Purse à Calgary pendant plusieurs années. Je ne sais pas s'il est encore là. Donc voilà. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des grandes œuvres depuis que Jésus a laissé cette promesse. Et puis, on ne sait pas ce que Dieu veut faire encore avec nous, avec moi, avec d'autres. Mais ce qui est important, c'est « Seigneur, je suis là. Je veux faire l'œuvre que tu as préparée d'avance pour moi et ça va être une grande œuvre, ça-là. » Donc, si on peut faire des plus grandes œuvres, c'est parce que Jésus est à l'œuvre en nous et à travers nous. Nous ne sommes que ses bras, ses pieds. À travers un cœur pur, un esprit humble, un désir de chercher la volonté de Dieu et de l'obéir, Dieu va faire des grandes choses. J'ai écrit une petite lettre le 1er juillet pour nos amis, célébrer notre 50 ans de ministère au Québec. Et puis, Quand je suis arrivé au Québec le 1er juillet, là, c'était une tempête. Il pleuvait. Il y avait un ruisseau à travers le tente. Première nuit à Québec. Mais la semaine suivante, on suit un petit test de placement pour la langue. Je viens d'Ontario. C'était zéro. Au niveau zéro. Après 4 années de français à l'école, je n'avais rien compris. Zéro. Mais une nouvelle motivation, un nouvel désir. Puis on a appris la langue. Hey, quand j'aime ça, on parle avec du monde. Ta, ta, ta. Puis on a débuté notre ministère officiellement en décembre ou en janvier. Et puis un des premiers gars que j'ai rencontré dans l'ascenseur de l'Université Laval, à 10 étages, on avait le temps de jaser, accepté le Seigneur quelques semaines plus tard. Puis il était pasteur pendant plusieurs années dans l'Église réformée, puis responsable de librairie chrétienne à Québec. Donc, moi, j'ai dit merci, gloire à Dieu. Parce que c'est une grande œuvre que Dieu a pu faire à travers cet humble serviteur qui parle mal le français. Et puis, il continue son œuvre fidèlement à travers nous. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, ce matin, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas cette vie éternelle, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Mais on ne peut pas partir d'ici sans offrir l'occasion de vivre le plus grand miracle possible, qui est de se repentir et de recevoir le pardon de nos péchés, de recevoir la justice de Dieu en nous, de recevoir la vie éternelle. Celui qui entend, qui écoute et qui croit, il a la vie éternelle, le plus grand miracle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle? Je ne sais pas. Mais on va arrêter, on va prier. Et peut-être dans votre cœur, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous n'avez pas la vie éternelle, vous pouvez sortir d'ici en vivant le plus grand miracle possible, de recevoir la vie éternelle. Notre bon Père Céleste, merci que tu es en nous, avec nous. Merci pour le Seigneur qui intercède pour nous. Merci pour cette promesse de répondre à nos prières. Merci, Seigneur, pour la fidélité de tes serviteurs à travers les dernières 2000 ans, qui fait que l'Évangile et la parole de Dieu est encore vivant et proclamé aujourd'hui. Et Seigneur, si quelqu'un ici ce matin qui n'est pas l'assurance d'avoir cette vie éternelle avec toi, ô Seigneur, je t'implore de toucher le cœur de cette personne par ton Esprit Saint, de le convaincre de son besoin, de son péché, de convaincre de ton amour et de l'attirer par ton Esprit à toi. Et que cette personne sorte d'ici miraculeusement, sauvée, avec la vie éternelle. Seigneur, si elle est quelqu'un, c'est à toi de savoir, c'est à toi de faire cette œuvre. Mais par la grâce de Dieu, que personne ne sort de cette salle ce matin sans avoir la promesse et la certitude de la vie éternelle. Donc, Seigneur, on met cette prière à toi pour ta gloire. Chacun des tes miracles, c'est pour ta gloire, pas la nôtre. Donc, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Merci.